Jacques. Attention, Jacques. Si Georges est le maître et Tony son caniche, que seras-tu en les suivant?
Une crotte, Jacques.
Un étron canin.
Réfléchis bien, Jacques. Il vaut mieux suivre la colombe.
La fiente de colombe, c'est moins salissant. Et ça porte bonheur. Alors que la crotte de caniche, ça ne porte bonheur que si l'on marche dessus. Antoine.
Bienvenue à bord du cortège Farida.
Aujourd'hui, je viens de recevoir, puisque je suis chômeur des ascédiques, une note me disant que mes cotisations à la caisse complémentaire allaient augmenter de 1 à 3%. Sur le canard enchaîné de ce jour, il est écrit une chose très intéressante pour mes confrères chômeurs. Un chômeur qui, lorsqu'il avait en travail, gagnait 1500 euros, soit sa cotisation en retraite littéralement exposée. Elle passe de 18 euros à 45 euros. Et tout est joué, plutôt que de faire cotiser les entreprises qui, selon Chirac, roulent sous les charges, mieux vaut faire payer les chômeurs qui ont le mérite d'être de plus en plus nombreux. La France d'en bas sera enfin plus utile à quelque chose. Donc nous sommes toujours bien en insécurité sociale. Merci Monsieur Chirac, merci Sarkozy. Faites quelque chose pour eux. Au revoir.
Bonjour, c'est Gilles de Tournon. Alors, je voulais m'occuper de l'histoire de l'échecu, là, mais je trouve qu'il y a un problème dans ce concours, c'est qu'il faudrait créer des catégories, parce qu'il y a plusieurs sortes de l'échecu. Parce qu'il y en a qui font ça naturellement, parce qu'ils savent faire que ça. Mais il y a des serveurs de soupe, il y a des renvoyeurs d'ascenseurs, il y a des faux culs qui n'existent pas devant un vrai. Enfin, il faudrait faire un sérieux travail en amont pour déterminer des catégories. Et bon, il y a un endroit où on pourrait peut-être recenser, c'est dans une rédaction, je sais pas, France Inter, par exemple, ça doit suffire, on va pouvoir trouver à peu près toute la panoplie. Enfin bon, c'était pour faire avancer le public. Hein.
Ouais, enfin, pas que là, hein, pas que là. Voilà, je vois que le concours de l'Èche vous intéresse. Eh ben, allez-y, allons-y, hein, on l'a lancé avant-hier. Serez-vous les meilleurs dans cet exercice qui se pratique beaucoup? Il faut du talent, il faut de l'entraînement. Vous avez vu, on a eu des exemples hier. Faut-il créer des catégories? Écoutez, on a tout le temps pour en parler. Aujourd'hui, en attendant, on a jusqu'au mois de juin hein, pour ce concours. Aujourd'hui, on va apprendre le français, ou du moins, on va aller là où les étrangers ou les Français d'origine étrangère apprennent le français. C'est toute une histoire, c'est toute une de ces histoires très très lentes qui se font peu à peu, qui se font doucement, et on va voir un peu loin des grandes déclarations tonitruantes, extraordinaires et qui cassent tout le temps, ni ange ni démon, comment l'on apprend le français en France. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, 01 56 40 37 37, et c'est pas triste.
Puisqu'il est question de l'Èche-cu et de l'Èche-botte, de bruit-botte et de porte-avions et de Michel Drucker, j'ai un petit article là sous les yeux dans Télémagazine. Pour moi, Bernadette Chirac a sa part de responsabilité dans le succès de son époux. Je voulais qu'elle m'explique comment elle voyait les choses. Après ça, on ne m'a posé aucun préalable. J'ai pu aborder les relations avec sa fille Claude Chirac. J'ai pu poser toutes les questions que je voulais sans aucune limite. Les affaires? Non, je n'en ai pas parlé. Ça n'entrait pas dans l'angle de l'interview. Finalement, Marc-Olivier Fogiel a eu le sentiment de vraiment découvrir Bernadette Chirac. Je m'attendais à rencontrer une femme rigide et je me suis retrouvé face à quelqu'un de détendu, voire marrant. Je lui ai cité un papier de l'Express révélant que sur les 40 collaborateurs de Chirac, 37 la détestent. Ce à quoi elle m'a répondu, « Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que l'on ne peut pas plaire à tout le monde. »« Elle est maligne », a ajouté Marc-Olivier Fogiel. Bernadette Chirac, elle, en redemande. À l'issue de l'entretien, elle a invité toute l'équipe à fêter cette entrevue courant janvier autour d'un repas à Versailles, comme elle l'avait déjà fait lors de son passage à Vivement Dimanche de Michel Drucker. Et Marc-Olivier Fogiel, d'être déjà sur la piste d'une prochaine interview exclusive, peut-être croiserons-nous Jacques Chirac à cette occasion. Formidable, non? Allez, à bientôt. Ciao.
Simone Saint-Priest, 66 ans. Ô France, terre des hommes de liberté, quelle chance tu as, après avoir connu la royauté, l'empire, le premier, le deuxième, cinq républiques, tu vas connaître, enfin tu commences déjà à connaître la chiracocratie, où tous les grands corps d'État, la presse et le MEDEF sont unis pour la volonté d'un seul homme et même de sa femme. C'est évidemment pour le lèche. Merci et bravo à vous tous.
Je m'appelle Camille, j'ai 11 ans, et c'est juste pour dire que ce qu'ils font aux États-Unis, c'est pas bien, et que s'ils font comme la guerre du Golfe du Guinée, ben moi je ferais assassineur d'un politique.
Voilà, si les pauvres meurent de froid, c'est pas parce qu'il fait froid, c'est parce qu'ils sont pauvres.
Ouais, salut, juste une question qui me traverse l'esprit à peu près 400 fois par jour. Pourquoi j'ai voté Chirac? Pourquoi j'ai voté Chirac? Pourquoi j'ai voté Chirac? Ah oui, parce qu'il y avait Le Pen. Mais bon, pourquoi j'ai voté Chirac? Pourquoi j'ai voté Chirac? Et pourquoi j'ai voté Chirac? Enfin bon, vivement 2007, qu'on ait le choix entre Sarkozy et Marine Le Pen. Salut.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Claire Auter. Là-bas, si j'y suis, parlez-vous français.
Flight number 2, arriving from New York.
Venezuela, Sri Lanka.
Leila,
marocaine.
Jamila, Algérie.
Je m'appelle Kanga, Sri Lanka.
Josiane, béninoise.
Obaja, nigériane.
Bonjour, mesdames, je m'appelle Madame Mona Das Kulanandini. Je suis Sri Lankais.
Je m'appelle Renu Marie. Je suis Sri Lankais.
Je m'appelle Shanshania. C'est Shishina.
Je m'appelle Aiten, je suis kurde.
Bonjour, je m'appelle Bami. Je suis Sri Lankais.
Je m'appelle Shui. Je suis Shimal.
Bueneswari, Sri Lanka.
Leila, marocaine.
Jamila,
ou bien vous ressentez l'angoisse devant l'invasion, ou bien vous dites oh que c'est mignon, que c'est bien ce monde multicolore que nous habitons. On va ni dans l'un ni dans l'autre aujourd'hui. On va simplement se limiter, c'est déjà une grande ambition, à montrer aux uns comment vivent les autres. Montrer aux uns comment font les autres. Ni anges, ni démons, ni méchants, ni bons. Aujourd'hui, on va dans le tout simplement, le peu à peu, le pas à pas, le mail à l'endroit, le mail à l'envers, dans le tissu associatif, le tissu social, dans un de ces lieux de lien où peu à peu, pas à pas, mail à l'endroit, mail à l'envers, on fait France. Oui, on fait France. Là, dans cet endroit, c'est tout Blanc-Mesnil, il y a d'autres endroits analogues, à la maison des Tilleuls, depuis une trentaine d'années, eh bien, il y a diverses associations regroupées dans cette maison des Tilleuls, mais il y a un cours d'alphabétisation qui existe là depuis 18 ans. Madame Bourron, ancienne secrétaire, dirige, s'occupe, disons, de ce cours. Tout simplement, plusieurs fois par semaine, des gens vont, des gens viennent, et on apprend peu à peu à faire France. Aucun domaine social n'est aussi défiguré, aussi manipulé, aussi instrumentalisé que le domaine de l'immigration. Et pourtant, l'histoire humaine, c'est l'histoire de la migration, de l'émigration. Tous, nous sommes des enfants et des petits-enfants, des arrière-petits-enfants d'émigrés et de migrants. Tous, nos parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, ont fui. Le bâton et avec devant eux une carotte. Et pour, c'est vrai, pas mal d'habitants de cette planète, nous sommes, nous autres heureux habitants de l'Hexagone, une carotte. Encore que, contrairement aux idées généralement reçues, le flux des clandestins reste limité. Et en France, il y a chaque année 100 000 immigrants nouveaux, ce qui par rapport à 60 millions finalement est un chiffre tout à fait qu'il faut voir avec sérénité. C'est une heure sereine, peu à peu, pas à pas, comment font les uns qui vivent à côté de nous. On sort un peu de notre alvéole, on va voir un petit peu à côté. Et puis à 18h, dans la bas si j'y suis, on retournera dans notre petite table.
Tu peux toujours écrire sur tous les toits que le ciel ne sera pas sans voix. Moi j'ai gardé les pieds sur terre, un homme qui a pas de frère à quoi ça sert. Et rêver que le diable un beau matin prenne congé de ceux qui ont plus rien. À gagner ou à perdre un mystère, un homme qui a pas de frère à quoi ça sert. Un homme qui a sa frère, à quoi ça sert? Un homme qui a sa frère, à quoi ça sert? Un homme qui a sa frère, à quoi ça sert? Un homme qui a sa frère, à quoi ça sert? Un homme qui a sa frère, à quoi ça sert? Un homme qui a sa frère, à quoi ça sert? Un homme qui a sa frère, à quoi ça sert? Un homme qui a sa frère, à quoi ça sert?
Je. Voilà. Sinon, vous prenez la feuille de lecture. Et là, c'est gue. Gue. Dites fatigue.
Fatigue.
Vous le mettez ici. D'accord. Je reviens. Hein? Et vous, comment ça se passe?
Jean.
D'accord. Alors là, dans le livre de lecture, il faut trouver Jean. Alors
Jeanine.
Voilà. Le mettez ici. Alors J-O.
J-O.
Oui.
Jolie.
Alors là, vous mettez
Jolie.
D'accord. Et là,
J-U.
Ça fait quoi?
Jus.
Oui. Alors, vous trouvez un mot avec jus.
Joupe.
Ah, voilà. Jupe. Alors là, vous mettez
jupe.
D'accord. Vous commencez comme ça et je reviens vous voir.
Merci.
Qui? Oh, non. Vous pouvez me dire que vous n'avez rien compris. Oh là, je suis désespérée. Alors, attends.
Vos élèves qui sont ici, ils ont débuté en moyenne le français depuis combien de temps?
Il y en a qui ont commencé cette année, oui. Et puis il y en a que j'ai eu l'année dernière. Mais ce qui est difficile, c'est qu'il y a 10 nationalités différentes.
Il faut jongler,
oui.
Ils semblent très appliqués.
Et ils ont surtout envie d'y arriver parce que bon, c'est surtout des exercices d'observation que je leur demande. Mm-hmm. Il y en a qui sont là depuis très peu de temps, 6 mois, il y en a d'autres qui sont là depuis un an. Mais c'est très très difficile l'alphabétisation parce que elles ont des tas de soucis. Comme je dis, j'ai pas le temps, j'ai mes enfants à aller chercher à l'école, j'ai ceci, j'ai ça. Je dis, mais il faut prendre le temps. Puis elles sont très timides, elles n'ont pas l'habitude de s'occuper d'elles, c'est ça.
En majorité, ce sont des femmes.
Oui, c'est vrai que les hommes, dès qu'ils ont trouvé du travail, on les voit plus. Les femmes, elles les fait sortir de chez elles, se sentir bien.
Alors voilà, ça c'est Madame Sidéron. On est au Blanc-Mesnil, dans la banlieue est-nord-est de Paris. Et vous avez compris, dans cette maison des Tilleuls, donc, il y a ce cours d'alphabétisation. Il y en a beaucoup en France, comme ça, tout un tissu, où patiemment, vous avez vu, c'est pas simple, il faut se libérer, il faut trouver du temps, et il y a les enfants, il y a des tas de difficultés qui font que apprendre la langue, eh ben c'est toute une galère. Et pourtant, c'est absolument indispensable, c'est ça qui peut éviter la relégation, l'apartheid social, le ghetto, enfin, toutes ces plaies, et ce qui décompose, qui risque, une menace de décomposition de notre pays et de notre société, et qui met en, en péril ou en risque le pacte républicain, eh bien, il y a un grand moyen, c'est évidemment l'alphabétisation, apprendre à parler le français. Et on va passer simplement, tout simplement, une heure dans cette maison des tilleuls, parce que vous allez voir comme c'est lent, comme les choses se font peu à peu, on décide pas, on décrète pas un contrat d'intégration, c'est très bien, on a envie tout à fait de ce genre de politique, prendre les choses, décider quel quota, combien, quoi et comment, mais on peut pas aller plus vite que la musique.
Je m'appelle Zaidi. Avant, je sais pas lire, ni écrire, ni parler, ni rien du tout. Et comme je vois mes enfants, eux, ils parlent entre eux. Moi, je reste seule, même la télé, je comprends pas. Même avant, je voulais rentrer à l'école, mais j'ai honte. À mon âge, je tremble. J'ai 38 ans. Mes enfants, ils ont 18 ans, 13 ans, et une fille, 12 ans.
Donc vous apprenez aussi avec votre enfant?
Avec ma fille, oui. Elle me dit, maman, viens. Viens, on va faire l'écriture, c'est mieux que le ménage. C'est ça. Je trouve c'est bien. On savait pas lire, on savait pas écrire, on savait pas qu'est-ce qu'ils disent à la télé, qu'est-ce qu'il y a, s'il y a les affirmations, il y a un truc important. On savait pas qu'est-ce qu'ils disent. Mmh. On regarde l'image, mais on savait pas qu'est-ce qu'il dit. On savait pas c'est quoi son passe devant le commerce, on savait pas c'est quoi la dame. Alors, si on part, même on passe devant l'hôpital, devant un truc comme ça, on savait pas c'est quoi. Si quelqu'un dit pas, ça c'est l'hôpital, ça c'est un commerce, ça c'est un pharmacien, alors on savait pas. Mon mari, il rentre tard, il n'hésite pas à lire et à écrire, il est pas le temps.
Qu'est-ce qu'il en pense, lui, du fait que vous appreniez?
Ben, la première fois, il savait pas.
Vous lui avez fait la surprise?
La surprise, oui. J'écris mon nom après, il m'a dit comment ça se fait. Je l'ai dit, c'est l'école. Elle est contente, très très contente.
Vous, vous avez appris à lire et à écrire en arabe?
Ah non, je suis pas rentrée à l'école toute ma vie. J'habitais la campagne. Les garçons, ils partent à l'école. Mais les filles, non. On part pas à l'école parce que c'est loin, alors on reste à la maison. J'écris pas ma langue. Je vais ici, à la France, ben c'est pareil. J'ai marié, je reste à la maison, j'ai des enfants.
Donc maintenant, cette honte dont vous me parliez, elle n'existe plus?
Alors maintenant, non. Si par exemple, je voulais partir à Carrefour, je pars. Je prends les bis du sel. Avant, c'est mes enfants, ils me ramènent. Alors maintenant, non. Ouais, c'est formidable.
يا من لودا يا جندية يا جندية عليها يا الغر يزيد.
C'est dur à ce moment-là.
Oui, alors c'est pour bientôt, là.
Oui, le 4 janvier, normalement.
Vous savez si c'est un garçon ou une fille?
Oui, un garçon.
Vous appelez comment?
Soumaro Afisiata. Je ne sais pas trop lire, écrire. Parce que chez nous, je pense que c'est pas obligatoire chez nous comme ici. Hein. C'est ce que moi je pense. Mais j'ai des frères et sœurs qui ont été à l'école, qui n'ont presque rien fait à l'école. Donc les parents se sont découragés tout de suite. Ils disent que les autres ne vont plus à l'école. Donc nous, on est restés comme ça.
Et ça fait combien d'années que vous êtes en France?
Bientôt 9 ans. Mais quand je suis venue, comme j'avais pas de papiers, rien, je me suis pas intéressée à ça. Bon, après, quand j'ai eu mon papier, j'ai essayé de travailler un peu. Je suis tombée enceinte. Je me suis dit que c'est le moment, comme je travaille pas, là. Le papa, lui, c'est lui écrit. Lui, il aide mes enfants. C'est pour ça. Il est content pour moi. Moi, il m'encourage. Il me dit de continuer parce que lui, comme lui n'a pas le temps de me montrer certaines choses, C'est important pour moi. Même si je sais pas trop lire, si je connais au moins minimum, quelque part, c'est liberté, oui.
Ça doit faire un drôle d'effet quand on arrive et puis il y a que des panneaux avec des signes.
Voilà. Au départ, c'était dur au départ.
Il y a un mot que vous savez écrire déjà?
Mon nom, c'est tout.
Est-ce que vous allez encourager d'autres femmes?
Oui. C'est important quand même. C'est bien qu'il y ait l'alphabet là pour venir apprendre, parce qu'il y avait mon rodjama, quoi. Ça donne coup de main, quoi. Oh. En bambara. Ça, c'est langue de mon mari, ça. Ni nana l'alphabet, car abe mon rodjama, kushiamana, quoi.
Buenisveri, Sri Lanka.
Leila, marocaine. Jamila, Algérie.
Je m'appelle Kanga, c'est langue.
Chosia, béninoise.
Obaja, nigériane.
Bonjour, mesdames, je m'appelle Mesdames Mona Daskolanandini. Je suis Sri Lankaise.
Alors, effet de la mondialisation, la multiplication des étrangers ou des Français d'origine étrangère qui vivent chez nous et qui s'installent chez nous. Autrefois, c'était un lien entre les pays colonisés et les pays colonisateurs. C'est le cas pour les grandes anciennes grandes puissances coloniales. Mais maintenant, mondialisation oblige, eh bien, il y a ces migrations. Selon l'INSEE, la France compte 4,3 millions d'immigrés. Plus d'un immigré sur trois est de nationalité française. Il faut rappeler ces chiffres parce que, comme je disais tout à l'heure, en matière d'immigration, les fantasmes sont alors oppressants. Et évidemment, les démagogues ne manquent pas d'exploiter ces fantasmes. Donc, il faut essayer de donner des chiffres précis et avoir sur ce phénomène très ancien un regard sans doute beaucoup plus serein que nous en avons généralement. La France a accueilli régulièrement 119 000 nouveaux immigrants en l'an 2000, 108 000 en 1999 et 140 000 en 1998. On estime à 120 000 à peu près le seuil qui correspond aux nécessités de l'emploi chez nous en France. Et puis évidemment, il y a le problème des clandestins ou des sans-papiers qui posent aussi des grands problèmes à notre société. Et en attendant le statut des demandeurs d'asile, et qu'est-ce qu'on fait d'eux? Alors là aussi, une réponse est de dire, mais alphabétisons, apprenons le français à ceux qui attendent et qui espèrent s'installer chez nous. Mais en tout cas, ce qui est clair et net à travers les chiffres, les études, mais il n'y a rien à faire, le préjugé est trop fort. Ce qui est certain, c'est que la France n'est pas assiégée par d'innombrables hordes qui guettent la moindre occasion de se glisser sur notre territoire. C'est faux. Faut pas croire que tout le monde rêve n'a qu'une idée, que le reste de la planète n'a qu'une idée, c'est de venir ici. Ça, c'est un très très vieux fantasme qui est inscrit dans nos archéologies mentales, que certains, comme je le disais, exploitent, et qui est le contraire de la vérité. Ici, on le sent depuis longtemps dans cette maison des tilleuls, où on donne patiemment, peu à peu, lentement, avec générosité évidemment, avec un sens de la solidarité, mais avec un goût profond de l'échange, ces cours d'alphabétisation.
Dans les grands sapins verts, oh, vive le temps, l'hiver, boule de neige et jour de l'an, et bonne année.
Pour la fin du Ramadan, vous nous aimez bien, vous nous avez apporté des cadeaux. C'est la fin de votre fête.
Ouais,
et pour la fête de Noël.
La fête de Noël, c'est pareil comme la fête de l'Aïd. On achète des cadeaux et les parents et aux enfants et les amis et tout ça. Et la famille, quoi.
Et on fait quelque chose.
Toute la famille.
On fait quelque chose de spécial à la maison.
Un petit repas, quoi.
Voilà, on fait un repas de fête.
De fête, ouais. Comme un repas de fête de l'Aïd.
Voilà, exactement, pareil. Ouais.
Pareil, oui. Chez tout le monde, pareil.
Le Noël, c'est aussi la réconciliation de tout le monde.
Le jour de l'Aïd, nous aussi, on pardonne. C'est normal, hein?
C'est la fête de Noël, fait la fête, c'est le cadeau, manger, la famille vient à la maison, c'est mesine, couper le gâteau, c'est pareil, c'est la fête, c'est ici, c'est la France aussi, c'est la même chose, c'est la fête pour les Arabes, c'est pour les Français, c'est pour tout le monde.
Naïma, vous venez d'où?
C'est Maroc.
Et ça fait combien de temps que vous venez au cours ici?
C'est 10 ans.
10 ans?
Oui. Moi, je suis pas bien tous les jours. Je compte travailler un peu comme ça, voilà. Je travaille avec les vieux. Je fais le ménage pour un dame. C'est dur, hein.
Vous avez appris à écrire ici?
Un peu.
Et là, vous allez continuer les cours?
Bien sûr. J'aime bien écrire, j'aime bien lire, j'aime bien connaître quelque chose, le papier de la banque, le papier des impôts, le téléphone. Moi, j'aime bien.
Micheline a déchiré la poche de sa robe.
La galoche. La,
je ne sais rien.
Ka chicano. Chican.
On a appris le H, qui est une lettre qui ne se prononce pas. Très difficile. Et maintenant, on apprend le Ch.
Donc ici, dans ce cours-là, c'est vraiment la base.
La base en français. Des personnes qui n'ont jamais été à l'école chez elles. Elles parlent français. Et c'est ici qu'elle commence à... Donc, on commence par le ABCD, même pas IOU au départ.
Et elle reste combien de temps dans ce cours?
2 ans. Ces dames ont une famille, la fatigue, beaucoup de choses.
Ah, donc, c'est un effort considérable pour elles de venir.
Énorme, énorme. Et j'apprécie beaucoup parce que elles sont extrêmement régulières. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, pendant tout le ramadan, elles n'ont pas arrêté, elles sont venues très régulièrement. Et moi, je les respecte beaucoup. On leur apporte, nous, un petit peu, mais elle nous amène beaucoup de choses, beaucoup de satisfactions. On parle différentes choses, comment elles font chez elles, comment nous faisons chez nous, les enfants. C'est un échange, c'est un grand échange. Pour être bénévole depuis si longtemps, il faut que ça nous plaise. Hein.
Vous êtes bénévole depuis combien de temps?
18 ans.
Toujours les mêmes parties qui font la guerre à l'Elkoud. Si je m'en pourrais l'irrité ou les racer. Qui n'est ma petite bourgeoisie, mais si baisse la tête pour crasser. Ouais, la maladie vu se me passer. Une jour télévision, vive la grève des enseignants. On les traite de feignants. Je m'en fous pour le fondamental. J'ai un costaud pour le football. Galerie malade mentale. Je m'en fous. Car t'es pour j'y rentrer. Pour j'y gdèbre. J'y vaux. Pour les win la vérité. Il est mal les infilos. Qui s'achète par kilo. La brosse remplace le stylo. Arabophone, francophone, qu'il vienne du Caire ou de la Sorbonne, roi de jeune fille, homme, holichkoon. Qu'aiment les jeunes, faites les bars, et les vieux dans les bars, les rues pleines de barbares. Qu'aiment régime les mosquées, la moitié est endormie, je m'envoie dans son lit au bar. Un hélio,
je m'en fous,
car il y a une couche hipster.
Il y a eu donc les odeurs avec Chirac, les quotas demandés par Charles Pasqua et approuvés par Jean-Pierre Chevènement. Il y a aussi le quota zéro pour l'immigration demandé par Valéry Giscard d'Estaing. Et il y a depuis hier soir les charters d'Edith Cresson, ou plus exactement les avions spéciaux pour renvoyer les immigrés clandestins chez eux.
Alors voilà, vous vous souvenez de ces moments et de ces politiques successives concernant l'immigration qui bien souvent sont frappées au coin de la plus évidente démagogie. Donc là, on nous parle maintenant de contrat d'intégration qui, à défaut de faire de la France une terre d'asile idéale, permettrait au moins de faire une terre d'accueil humainement convenable. Alors, attendons, ne jugeons pas forcément a priori, etc. Mais là, on est dans une autre histoire, dans une autre vitesse et dans une autre façon d'aborder les choses, c'est-à-dire au peu à peu, au jour le jour, au comme on peut aussi, parce qu'il s'agit d'associations qui n'ont pas évidemment des budgets faramineux, mais la solidarité, tout simplement, pallie à tout cela. Alors, qui sont ceux qui animent cette maison des tilleuls, cette association d'alphabétisation, depuis 18 ans quand même, hein, par exemple, madame Bourron est présente. Eh bien, il y a des gens comme Albert Mériot, qui est un prêtre ouvrier, figurez-vous.
Je suis prêtre ouvrier à Blanc-Ménil depuis presque 30 ans. Je suis maintenant retraité depuis 6 ans. J'étais chauffeur de bus dans le Val-d'Oise, du côté d'Argenteuil.
Qu'est-ce que c'est être prêtre ouvrier aujourd'hui?
C'est inscrire l'évangile, donc ma foi, dans la vie courante. Le vivre au jour le jour. Et autrefois, je rentre au travail pour leur annoncer l'évangile, et j'ai découvert que finalement, quelquefois, c'était eux ou elles qui m'ont appris des choses pour ne pas être à côté de la vie quotidienne, pour être présent à tout ce monde du travail. Je suis pas loin, je suis tout proche. Donc un prêtre ouvrier, c'est pas quelqu'un qui fait du religieux, c'est quelqu'un qui est présent à la vie comme tout le monde. Et maintenant, je suis présent sur le quartier, dans la maison des tilleuls, qui est la maison de quartier. À l'alphabétisation, ce sont un groupe de bénévoles qui ont le souci d'intégrer ces femmes et ces hommes, soit de la première immigration qui y arrive, ou d'autres qui sont là depuis longtemps, puis qui se décident enfin à apprendre le français pour mieux s'intégrer. Je voulais une présence plus forte auprès des migrants, de ceux qui arrivent aujourd'hui. C'était ça mon idée. Je connais beaucoup plus ceux qui sont là depuis longtemps, et il fallait connaître aussi la couche de gens qui arrivent. C'est très différent entre les personnes qui ont déjà appris leur langue chez eux à l'école, quand à l'école, ou celles qui n'y ont pas été du tout. Pour elles, donc, c'est vraiment un démarrage. Nous avons tous les mêmes motivations, c'est-à-dire faire mettre des gens debout et puis les aider à s'intégrer. Pour moi, ça me paraît important. La majorité sont des émigrés, mais beaucoup sont maintenant français. La deuxième génération des Maghrébins qui sont là, dans ceux qui sont à la cour d'alphabétisation, un tiers ont la nationalité française. Ou si elles ne l'ont pas, les femmes, leurs enfants l'ont.
Alors voilà, Albert Mériot, donc prêtre ouvrier, une vieille histoire, celle des prêtres ouvriers. On y reviendra un jour sur ces gens-là. Et symétriquement, si j'ose dire, à l'ancienne, Madame Sauvage.
Je suis depuis de longues années adhérente du Parti communiste. J'ai été pendant 30 ans conseillère municipale communiste sur une liste d'Union de la gauche. J'ai été directrice d'école dans mon quartier pendant 18 ans, dans ce quartier de la cité des Tilleuls, et à la retraite, j'y suis restée. Je n'ai pas eu envie d'aller ailleurs. Mais à vrai dire, avec les gens du quartier, j'ai des rapports anciens et personnels qui se situent pas totalement sur le terrain politique. C'est un petit peu affectif. Mon engagement au sein du Parti communiste, je l'ai contracté par mariage. J'ai attrapé le virus, c'est mon mari qui m'a contaminée. Lui s'était engagé très jeune. Mes parents étaient de gauche, mais avec un engagement plus calme, plus modéré. Je crois que le facteur déclenchant, c'est de constater que quand un enfant arrive à l'école élémentaire à 6 ans, à cause de son appartenance sociale, son destin est déjà en partie tracé. Et ça, je trouve que c'est une terrible injustice. Parce qu'on peut toujours penser qu'un adulte est en partie responsable de sa vie, mais pas un enfant. Moi, ce que j'essaie de donner aussi, comme j'essayais de donner aux enfants, c'est la confiance en eux, la confiance dans leurs capacités, hein. Savoir que une erreur, un échec, qu'on s'en relève, rien n'est jamais perdu. Les personnes qui fréquentent l'alphabétisation le montrent. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de courage, parce que parfois, au sein de leur famille, elles rament à contre-courant. Parfois, elles sont soutenues aussi, et encouragées. Il ne faut pas non plus noircir le tableau. Mais enfin, je les admire. J'éprouve beaucoup de joie à ce que des personnes de nationalité étrangère aient envie d'apprendre ma langue que j'aime, que j'admire. Et ça me fait énormément plaisir de partager la beauté, la finesse de cette langue avec d'autres personnes. Nos cours ont lieu l'après-midi, enfin, ou le matin, mais dans la journée, les hommes qui travaillent ne peuvent pas y participer et il y a une forte demande qui n'est pas satisfaite de ce côté-là. Moi, j'ai eu, par exemple, un jeune Portugais qui est resté quelques mois avec nous puis qui a trouvé du travail.
Bonjour, madame.
C'est là-haut, madame.
Ah,
au tout le monde
étage.
Là-haut,
au premier étage.
Merci. Finalement, ces femmes et moi, nous avons les mêmes préoccupations. L'avenir de nos enfants, la paix, mes enfants, mes petits-enfants, qu'ils soient heureux, qu'ils vivent dans un monde en paix. Je me sens très semblable à elles et je trouve qu'il y a bien plus d'éléments qui nous rassemblent que d'éléments qui nous différencient. Moi, j'ai exactement les mêmes soucis que ces personnes, quelle que soit leur origine.
J'ai demandé au ministre de l'Intérieur, et ce sera fait, que des dispositions soient prises pour que lorsque l'on décide qu'un certain nombre d'étrangers en situation irrégulière doivent être reconduits dans leur pays, ça soit fait d'une façon totale. Moi, c'est les actions qui m'intéressent. Alors, s'il y en a 10 qui doivent être reconduits, c'est pas 3,5 comme aujourd'hui qui seront reconduits, c'est 10 qui seront reconduits.
Mais comment pouvez-vous faire? Est-ce que vous allez faire comme le préconise Robert Pendreau, ou comme l'avaient fait Charles Pasqua et Robert Pendreau autrefois, c'est-à-dire faire des charters?
Et il faut pas faire de cette façon-là, faut pas prendre les lignes régulières. Il faut prendre un autre système et ça sera fait très rapidement.
Mais c'est les charters,
c'est pas des... Vous appelez ça les charters, c'est pas des charters, parce que les charters, vous savez ce que c'est des gens qui partent en voyage avec en vacances avec des prix inférieurs. Là, ça sera totalement gratuit et ça ne sera pas pour des vacances, ça sera pour reconduire les gens dans leur pays lorsque la justice française aura établi qu'ils n'ont pas le droit d'être chez nous.
Malaise, grand malaise, on s'en souvient. Et aujourd'hui, est-ce que les choses profondément évoluent? Ça reste à penser et à transformer en politique de façon concrète. On va essayer avec Philippe Deville, qui est rédacteur en chef de la revue Homme et Migration, de comprendre, toujours avec cette sérénité qui nous accompagne aujourd'hui, cette intégration. Comment se passe cette intégration? Est-ce qu'elle est vraiment en panne, cette intégration, comme on le dit? Qu'est-ce que c'est que l'intégration à la française par rapport à l'assimilation, assimilation, communautarisme, le risque communautariste dont on nous parle beaucoup? Philippe Deville de Homme et Migration.
Alors Philippe Deville, comment l'intégration s'est faite par le passé?
Il y a eu un certain nombre de vecteurs qui ont pu être soit la politisation, c'est-à-dire
le militantisme au sein de certains partis. On a souvent cité le Parti communiste, par exemple, qui a servi beaucoup à l'intégration dans la société des Espagnols ou des Italiens, enfin pas seulement d'eux. Puis le travail, bien entendu, le travail et le syndicat au contact des ouvriers français. Et donc, effectivement, il n'y a jamais eu besoin de mettre en place des structures, au moins jusqu'à la fermeture officielle des frontières aux travailleurs non qualifiés en 74. Au moins jusqu'à cette date, les dispositifs, en tout cas gouvernementaux, ont été pour le moins légers, en tout cas en ce qui concerne à la fois l'apprentissage du français et l'alphabétisation. Il y avait aussi les églises qui ont joué un très grand rôle. J'ai parlé du Parti communiste, côté par exemple des migrants italiens ou... Et même des migrants polonais qui, c'est bien connu, sont venus au départ avec leur curé, qui ont l'intention de retourner au pays dans l'entre-deux-guerres, par exemple, et qui, à partir de 45, en grande partie d'ailleurs à cause du combat commun dans la résistance, de la lutte commune contre le nazisme, se sont retrouvés à prendre racine en France dans les années 45 à 1960, hein, en gros, pour aller vite. C'est le moment où ils ont pris la nationalité française. Ceux-là non plus n'ont pas eu de cours ni de français ni d'alphabétisation. De toute façon, globalement, généralement, les Polonais étaient souvent quand même alphabétisés. Mais en tout cas, ils n'ont pas eu de cours de ce qu'on appelle aujourd'hui français langue étrangère. Ils n'ont pas eu besoin de ça. Pareil pour les Italiens, c'est le travail qui a... Le travail et les enfants. Une fois que les enfants arrivent, les enfants vont à l'école, les enfants reprennent leurs parents. Enfin, c'est un schéma très connu, quoi. Puis les parents qui se sentent obligés, les mères en particulier, qui elles... pour une partie d'entre elles, ne travaillent pas et qui donc ne sont pas au contact des autres travailleurs et ont plus de difficultés pour l'apprentissage de la langue et qui souvent l'apprennent avec leurs enfants. Quand on laisse rentrer les gens, on pense que ça va être provisoire, on en a besoin. En 1920, ils sont là pour la reconstruction. Une fois que le pays sera reconstruit, ils repartiront chez eux. Et d'ailleurs, en 1934-35, au grand moment des vagues xénophobes, au moment où toutes les professions demandent à être protégées contre les travailleurs étrangers, eh bien, les Polonais sont raccompagnés massivement. C'est-à-dire que les charters, vous savez, les charters de Charles Pasqua il y a 20 ans, c'est pas lui qui les a inventés. En tout cas, il n'a pas inventé le retour forcé. J'ai oublié le chiffre, mais ils sont massivement raccompagnés entre guillemets. Mmh. Et à partir des années 50, quand les Algériens viennent, en pleine guerre d'Algérie, qui plus est, on voit bien ce que ça veut dire. Mais en tout cas, eux non plus, on pense pas. Et alors, comme en plus c'est des coloniaux, que le pouvoir central pense avoir quand même beaucoup plus prise sur eux que sur des résidents étrangers, eh bien, on pense que ça va durer le temps du miracle économique, en tout cas le temps de la reconstruction. Cette fois-ci encore, on est dans la reconstruction. Or, tous ces gens restent. Et quand on ferme les frontières en 74, on promeut en sens inverse le regroupement familial, c'est-à-dire que par mesure humanitaire, en tout cas c'est présenté comme ça à l'époque, on dit... On ne peut plus laisser rentrer qui que ce soit maintenant parce qu'il y a le chômage et que c'est pas le moment. Les gens qui sont là, ils vont rester. Hein, c'est quand même une différence avec les années 30, malgré tout. Et on va faire venir les familles. Et c'est ce grand mouvement de transformation de l'immigration, d'immigration de peuplement, on pourrait dire, que l'on voit arriver dans les années 80. Et après, ce qu'on a appelé dans les années 80 les deuxièmes générations, les enfants nés ici, qui n'ont finalement pas à voir avec l'immigration, si ce n'est dans leur lien familial.
Je m'appelle Madame Polen Samar Taus. Ouais. Je suis Kabylie, la petite Kabylie. Je suis mariée avec un cousin. On va y travailler dans le bâtiment.
Ouais. Et combien d'enfants?
5 filles et un garçon. Un garçon, il est né à l'Algérie, mais les filles sont tous nées ici. Oui, maintenant, ils sont grands, ils sont mariés, je suis fière d'eux aussi. Il est très gentil, mon mari. Ils me disent, va à l'école, va écrire, va.
Il vous encourage?
Oui, oui.
Et lui, il sait lire et écrire?
Non, lui comme moi. Ça m'intéresse pas maintenant, c'est trop tard. Et je crois que c'est la quatrième année.
Quatrième année que vous venez au cours?
Oui, j'aime bien. Hein. Alphabet un peu, mais les mots, ils sont durs. C'est vrai, il reste pas là-dedans. Il sort. Parce que... J'ai des mal à comprendre les mots. Je veux lire, je veux, mais j'arrive pas. Je parle français un peu quand même. Je me débrouille. Je vais au docteur toute seule, je vais au marché toute seule, tout ça. Même il n'y a pas mon mari, je vais au Carrefour et tout ça.
Mais c'est quand même mieux quand on sait.
Ah ouais, ça. C'est mieux si on sait. C'est vrai, hein.
Madame Taouche, une des personnes qui suit ce cours d'alphabétisation, 200 personnes viennent dans cette maison des tilleuls suivre ces cours, et à 85% ce sont des femmes déjà d'un certain âge pour certaines, comme Madame Taouche déjà, et oui, la vie est passée, elle s'est occupée d'un tas de choses, et puis bon, ben voilà, avec le temps passant, elle veut écrire, mieux parler français, et puis écrire, et puis lire, ce qui est évidemment la première démarche de l'intégration. Alors cette intégration à la française, où en sommes-nous de cette intégration, Philippe De Witt?
Ça fait longtemps que vous venez ici au cours d'alphabétisation?
Ben, il y a l'année dernière, et cette année, ça fait la deuxième année. Je suis marocaine, de Marrakech. J'ai 52 ans. Mm-hmm. Je suis venue à 70.
Vous savez déjà lire et écrire dans votre langue à vous?
Non, non, je sais pas. Malheureusement, je sais pas. Parce qu'à l'époque, nos familles, elles n'acceptent pas quoi les filles qui vont à l'école. Alors, on n'a pas été à l'école. Bah, c'était ici qu'on a commencé. Bon.
Pour vous, vous découvrez l'écriture ici?
Oui, bien sûr. Parce qu'à l'époque, vous voyez, j'étais jeune. Il y avait l'alphabétisation chinoise à Duny. Parce que moi, je suis pas de Blomini, je suis de Duny. Pas loin d'ici, contre le Bourget, la Cornave. Bon, alors, à l'époque, nous, il y avait de l'alphabétisation à Duny. Sauf que ça n'intéresse pas, quoi. Mais tant qu'on arrive à un certain âge, ça me fait plaisir de prendre à lire et à écrire. Ben, c'est à ce moment-là qu'on a commencé. Je suis mariée, j'ai 4 enfants. J'ai mon premier enfant qui est né au Maroc. Les 3 enfants, ils sont nés ici. Ils sont été à l'école, ils ont la nationalité française et ils sont français, quoi. Quand on était jeune, on prend tant rigolade. On dit oui, c'est trop tard, non, 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 c'est un âgé, tout ça. C'était le contraire. À l'époque, on était jeune, on va prendre facilement. Avec la volonté, on arrive à tout, si on veut. Vous voyez, moi, je veux pas venir de Duny jusqu'ici, si ça me plaisait pas. Parce qu'avec le transport, il faut faire 2 bus. Comme moi, j'ai mon permis, j'ai la voiture. Et maintenant, j'ai ramené mes amis avec moi, j'ai ramené 3 femmes avec moi. Alors, il y en a une qui donne le courage à l'autre. Mais moi, si j'ai pas envie de l'exemple, si j'ai pas envie d'y aller, je dis, ben non, je veux pas le gâcher leur journée. Parce que moi, si je viens pas, eux, ils viennent pas non plus. Alors, tu viens avec eux.
Qu'est-ce que ça change dans votre vie quotidienne?
Tout. Tout. Parce que vous voyez déjà, d'avoir un permis, il faut d'abord connaître les panneaux. Il faut d'abord savoir où, à l'endroit où aller. Comme moi, comme je suis assistante maternelle, je me déplace tout le temps en voiture. Mmh. Je suis toujours les déplacements, les rendez-vous à droite à gauche avec les enfants, avec les services sociaux, avec tout ça. Il faut connaître quand même les adresses et tout ça. Il faut marquer le numéro de téléphone. Quand la personne vous appelle, il faut répondre, il faut écrire son nom. Et je sais comment je peux l'écrire, c'est pas comme avant. Je sais pas où il est Gine et J. Ça ouvre un peu les yeux. Parce que déjà, quand vous voyez quelque chose déjà, même si vous le connaissiez pas bien, 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 vous prenez le premier mot, vous rejetez le deuxième mot, vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire. Ça vous donne envie, quoi.
Et par rapport à votre mari, à vos enfants, qu'est-ce que ça change?
Ouais, si j'écoute mon mari depuis longtemps, il veut que je vais à l'école. C'était moi. Tout ceci de ma faute, c'est pas la faute à mon mari. Il m'a jamais empêché. Parce que moi, je connais des femmes qui leur mari qui l'empêchent. Moi, non. Au contraire. J'ai pris mon permis, malgré que je mets mes enfants aussi.
Mais vous avez attendu que les enfants soient grands pour vous y mettre?
Non, non. C'est grâce à mes copines. Si c'est pas mes copines, je crois que je vais me décourager. Mm. Parce qu'on est un groupe, ça veut dire quand il y a ton permis à la main, il y a qu'à mettre la clé et démarre. Je veux pas que je l'empêche d'aller au cours.
Est-ce que ça vous a donné envie, maintenant, d'apprendre à écrire votre propre langue?
À ça, j'ai jamais pensé. Parce qu'ils ont dit que c'est dur à écrire. L'arabe? Ouais. Ils ont dit que le français, c'est plus facile que l'arabe. Je sais pas si c'est vrai ou pas.
Alors, je vois, vous êtes voilée. Ça veut dire que le Coran, vous ne le lisez pas?
Non. Non, pas du tout. C'est pas un problème. Parce que moi, pourquoi, je suis pas tellement voilée. Pourquoi je le mets? Parce que moi, je suis une femme qui fait jamais attention pour maquiller, pour se coiffer, pour, vous voyez? Hop, je m'habille n'importe comment, je me fais n'importe comment, je suis pas voilée pour être...
Par religion?
Non, 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 non. Parce que moi, j'ai pas une femme qui coquette devant l'armoire pour rester coiffée, pour rester maquillée, pour rester rangée. Alors, je préfère de mettre un foulard, hop, de sortir.
Le foulard, donc, c'est pratique.
Bah, c'est facile. Soit un foulard, soit un bonnet. C'est plus facile. C'est plus facile à mettre.
C'est plus facile d'être avec que ça.
Voilà. Ça veut dire, si j'ai envie d'y aller quelque part, que je sais que les gens, ils sont élégants, à ce moment-là, bon, j'ai pas un peu de temps pour me ranger. Si je sais que je vais aller à l'école de l'alphabétisation, je vais aller faire mes courses, comme j'ai mon permis, j'ai ma voiture, j'ai pas le temps de prendre le bus pour les gens et me regardent, hop, j'ai pas, j'ai fait, c'est tout.
Vous mettez le foulard.
Oui, bah, maintenant je suis pas coiffée, c'est pour ça que je le mets. Je fais le ménage toute la matinée. C'est tout, hein. Ça vous fait rire, hein, c'était comme ça. Si je vous retire maintenant, vous voyez, non, c'est pas la peine, hein.
Et les autres dames qui sont là, oui. C'est aussi pour la même raison.
Il y en a une qui le met aussi pareil que moi. La plus jeune, il le met pareil que moi. Après, quand il a retiré là maintenant parce qu'elle est bien coiffée là. Moi, je le retire pas parce que je l'ai pas bien coiffée. Je suis en pyjama.
Vous êtes venue en pyjama?
J'ai pas eu le temps alors.
Merci.
Bah de rien.
Je suis leur corps par leur viol dévasté. Je suis l'âme par leur haine pourchassée. Je suis là par leur horreur torturée.
Mais je suis le courage des combats. Béant, c'est ma blessure. J'ai mal à mes enfants décapités, à l'hôtel, à part, à Aloula, à Tati.
Merci à tous, merci à tous les membres de l'association d'alphabétisation de la maison des Tilleuls au Blanc-Ménil. Hein, Blanc-Ménil, c'est dans le 9-3. Merci à Philippe David de la revue Hommes et Migrations. Merci à Madame Bourron, Madame Siliron, à Madame René, Madame Sauvage, Monsieur Albert Mériot. Et à Marie-Soline Royer, c'était un reportage de Claire Auter. Technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Christian Buton. Le répondeur, c'est Christophe Imbert qui s'en occupe. Le numéro, c'est 050-01-56-40-37-37, 01-56-40-37-37. Assistante Joël Levert, assistante de réalisation Coy Nguyen, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission pour deux sujets.
À ma terre souillée par ces violeurs d'innocents, ces faux démons, ces imams d'imposteurs, prêcheurs d'une haine venue de l'enfer. Aveugles, ils ignorent que souffrir n'est pas prier, subir n'est pas abdiquer.
Je rappelle le titre de la revue de Philippe De Witt, Hommes et Migration, réclame.